Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Si tu vas refaire un tour du côté de chez Swann pour y retrouver l'amour, ne prends pas le risque fou de te perdre, de ne pas te protéger contre tout. Quel que soit ton partenaire, que cela reste clair.
Et oui, nous écoutons Dave. Une reprise en quelque sorte du côté de chez Swann, dans lequel il a changé les paroles justement pour nous alerter sur les risques qu'il ne faut surtout pas prendre. Dave qui a perdu beaucoup, beaucoup d'amis à l'époque du sida et qui témoigne à travers cette chanson de son engagement pour la cause et la lutte contre le sida. Vous avez compris, vous êtes dans votre émission Bien fait pour vous qui parle de votre, de notre vie quotidienne. C'est tous les matins de 11h à midi. Aujourd'hui, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous recevons le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Alors, professeur Pialoux, on a parlé juste avant des seniors qui découvrent leur séropositivité. Il y en a plus qu'on ne l'imagine. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se contaminent chaque année, malgré des campagnes de prévention. Comment on peut expliquer ça pour eux? Ça ne les concerne pas, ce virus?
C'est vrai que c'est une maladie, vous l'avez dit tout à l'heure dans la chronique, qui est apparue en 83. Donc, pour eux, c'est une maladie de vieux. Moi, je fais souvent des enseignements le 1er décembre avec des lycéens et je vois à quel point ça leur paraît la maladie des parents ou des grands-parents, ce qui est complètement faux. Dans le service, par exemple, à Tenon, on a eu deux découvertes de VIH de 20 et 21 ans, donc voilà, qui étaient en plus des découvertes plus anciennes, un peu tardives. Donc ça veut dire probablement des contaminations vers 16-17 ans. Ouais. Et puis, il y a une fausse croyance, hein, quand on regarde les sondages, 29% des 18-24 ans considèrent être moins confrontés au risque du VIH du fait de leur âge, ce qui n'a pas de sens.
Ah oui.
C'est pas l'âge qui protège, c'est les outils de prévention, c'est le dépistage, c'est le préservatif, c'est la PrEP, etc. On va en parler. Et seulement 34% utilisent le préservatif lors des premiers rapports sexuels, c'est qui est totalement insuffisant parce que c'est pas écrit sur le front, c'est pas.
Il y a qu'un tiers des jeunes qui utilisent un préservatif.
Oui, c'est lors des rapports sexuels, c'est totalement insuffisant. Et on a ringardisé un peu cet outil qu'est le préservatif et qui est un outil efficace. Hein, ça protège en plus contre d'autres infections sexuellement transmissibles. Et c'est pas un outil de vieux, il faut le. Moi, j'en mets dans le sapin de Noël depuis que mes enfants sont.
C'est vrai,
alors,
c'est une bonne
ça
idée
les amuse, pour ça les amuse plus. Ça les amuse plus.
Mais on chaque année, de papy m'aider.
Non, mais c'est une bonne idée pour sensibiliser les jeunes.
On peut les rentrer dans certaines boules aussi. Enfin, c'est une façon de banaliser l'objet, quoi. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir une sexualité racontée aux parents pour s'emparer de cet outil, quoi.
Et professeur, je sais que quand on interroge les jeunes, il y en a aussi beaucoup qui croient que le VIH, c'est pas grave, ça se guérit, quoi. Ça se traite, en tout cas. Ils confondent un peu tout. On est d'accord, ça ne se guérit toujours pas, le sida.
Alors ça, c'est vraiment un point central. Parce que, et notamment les discussions qui ont voulu... Vous savez, il y a eu des polémiques qui mettaient les infections sexuellement transmissibles tous sous le même rang. Il faut savoir que d'abord, le VIH, c'est un traitement vie. Bon, je sais qu'il y a d'autres pathologies où c'est un traitement à vie. Il faut savoir que quand vous avez un diagnostic tardif, on en a parlé tout à l'heure, vous rattrapez pas, c'est une perte de chance pour la. Vous avez une vie qui est plus courte parce que vous avez été traité trop tardivement.
Ce qui est perdu est perdu, quoi.
Ce qui est perdu est perdu. Enfin, on rattrape sur l'immunité, mais on rattrape pas complètement la survie comme on peut le faire chez quelqu'un qu'on dépiste tôt et qu'on traite tôt. Et puis le troisième élément, c'est que c'est une maladie aussi très stigmatisante. On oublie, hein, et on oublie aussi, par exemple, quelque chose qui est incroyable, qu'il faut rappeler au 1er décembre, il y a des métiers qui sont interdits aux séropositifs.
Ah bon ? Lesquels ?
Il y en a toute une liste, la gendarmerie, la police, je sais que ça allait vous surprendre, hein, mais il y a un classement qui, avec des lettres qui...
classement qui n'a pas de sens, hein, selon vous ?
Qui n'a pas de sens, je veux dire, un séropositif pris en charge précocement et traité, ne transmet pas, à des capacités physiques qui sont les mêmes que quelqu'un de séronégatif et à une survie qui est les mêmes que quelqu'un qui est séronégatif.
Donc dans les conditions que vous venez de décrire, traité à charge virale indétectable, a priori, il n'y a aucune raison que des métiers leur soient interdits.
Non transmetteur et non pénalisant. C'est quelque chose que les associations de lutte contre le sida essayent de casser, ce classement à certaines fonctions. Et je pense que le 1er décembre est l'occasion de le rappeler.
Alors puisque l'on parle aussi de traitement, nous allons prendre en ligne Joël. Bonjour Joël.
Oui, bonjour. Comment allez-vous ?
Je vais très bien, et vous-même ?
Ça va très bien.
Vous avez 58 ans, Joël, et vous avez été contaminé par le VIH il y a pile 30 ans. Vous aviez une idée de la façon dont vous avez été contaminé ? Je crois que la maladie était déjà à un stade avancé, hein, quand vous l'avez découvert.
Oui, quand j'ai découvert ma séropositivité, oui, la maladie donc commençait à circuler. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur cette époque-là. On est dans les années 90. Mm-hmm. Et donc moi, j'ai été contaminé par rapport sexuel. Mm-hmm. Tout simplement, voilà, on avait une information comme quoi un virus circulait. Donc moi, je suis homosexuel et il y avait beaucoup de stigmatisation aussi à ce moment-là, à cette époque-là, qui faisait que on n'avait pas une transparence des modes de protection comme on peut l'avoir maintenant.
Joël, on vous a pris en ligne aussi pour témoigner d'une chose, c'est que donc les traitements ont beaucoup évolué en 30 ans. Je crois qu'au début, il n'y avait pas vraiment de traitement efficace. On vous bombardait de gélules. Combien vous avez pris de comprimés au maximum, vous, pour nous, qu'on comprenne bien cette différence entre hier et aujourd'hui?
Alors, entre hier et aujourd'hui, donc, au tout début, donc, on n'avait que l'AZT, donc, qui était un traitement qui était très peu efficace, mais qui a eu énormément de conséquences sur les effets secondaires, notamment. Et moi, j'ai rencontré la maladie, j'ai déclaré un sida en 98, donc la maladie m'a rattrapé. Et en sortant de cette maladie, du syndrome du sida, j'ai été jusqu'à 46 gélules par
jour. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. C'est limite comme prendre des vitamines le matin. En tout cas, c'est bien moins contraignant. Vous prenez combien de comprimés par jour?
Alors maintenant, je dirais, c'est le jour à la nuit. Hein. Là, actuellement, j'ai exactement 4 comprimés à prendre.
Ah, 4.
4 comprimés à prendre, ce qu'on appelle en trithérapie. Et j'ai connu, il y a quelques mois en arrière, ce qu'on appelle la ROLS des traitements, c'est-à-dire un seul comprimé. Mm-hmm. Qui représente en fin de compte l'ensemble du traitement, et là on peut prendre on veut quoi.
Très
et,
bien.
C'est vraiment quelque chose. Les avancées qu'il a pu avoir au niveau des traitements sont fantastiques.
Ouais, qui vous ont effectivement changé la vie et bien facilité la vie. Merci beaucoup Joël pour votre témoignage ce matin sur Europe 1. Professeur Gilles Pialoux, pour se protéger du VIH, alors on l'a dit, il y a plusieurs moyens, il y a notamment évidemment le préservatif qui reste la pierre angulaire, mais aujourd'hui il y a un traitement préventif. Nous, je crois que ça fait des années qu'on en parle tous les deux sur cette antenne, mais je crois que beaucoup de jeunes ne savent même pas que ça existe encore. La PrEP, c'est quoi ce traitement préventif?
Alors PrEP, c'est un acronyme pour dire prophylaxie pré-exposition. C'est en gros, ça s'adresse évidemment aux gens qui ne sont pas contaminés et qui prennent un ensemble de produits actifs dans un seul comprimé, c'est génériqué. Et toute personne qui s'estime à risque peut accéder à la PrEP, qui en plus, depuis maintenant un peu plus d'un an, peut être prescrit en ville par un médecin généraliste.
C'est sûr à 100% la PrEP, hein?
Alors, c'est sûr à 100%, il n'y a pas d'outil qui soit à 100%, mais quand vous regardez les gens qui le prennent... Alors, il y a deux schémas. Il y a ceux qui le prennent tout le temps, un comprimé, enfin, comme
tous
un contraceptif,
jours,
tous les jours. Et il y a ceux qui le prennent à la demande. C'est ce qu'on a développé en France avec une étude qui s'appelait Hypergay, avec l'agence d'État. Et là, ça encadre, il y a un schéma qui encadre l'activité sexuelle, notamment si, par exemple, on a une activité sexuelle que le week-end. Et ça sauve des vies, la PrEP. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça sauve des vies parce que ça empêche la contamination du VIH à un taux de plus de 96% d'efficacité. Mais c'est pas le seul outil. Il y a effectivement, on en a parlé, le préservatif. Il y a le fait d'être dépisté. Parce que si vous êtes dépisté, vous êtes traité. Si vous êtes traité, vous êtes plus contaminant.
Oui, ça,
donc vous cassez la chaîne de contamination. Donc c'est pour ça aussi qu'on met l'accès. Le dépistage est lui-même un outil de prévention, puisqu'il va permettre à la personne d'adapter son comportement et surtout d'être traité. Et là, on est dans une efficacité quasiment de 100%. Il faut savoir que les couples où il y en a un séropositif et un séronégatif, notamment hétéro, peuvent avoir des enfants exactement comme les autres grâce à l'efficacité de ce traitement comme outil de prévention.
Mais
donc
on a
des outils, et c'est pour ça que c'est malheureux ce chiffre de 5000, c'est qu'on a les outils, c'est juste qu'ils ne vont pas vers la cible.
Mmh.
Ils ne vont pas suffisamment vers la cible, et la PrEP doit sortir de là où elle est, c'est-à-dire elle est essentiellement chez les gays, et il faut qu'elle reste chez les gays, mais il faut aussi qu'elle soit accessible aux jeunes qui prennent des risques, aux multipartenaires, aux femmes qui ne peuvent pas négocier la prévention, et il y en a beaucoup, et pas seulement les travailleurs, travailleuses du sexe.
Donc il faut l'étendre, cette PrEP.
Il faut l'étendre, et on a l'outil pour, puisque la médecine de ville peut le prescrire, et ça commence à prendre en médecine de ville, et c'est une des bonnes nouvelles de ce 1er décembre.
C'est gratuit ou pas?
C'est pris en charge par l'assurance maladie à 100%.
Bon, ben voilà, ça valait le coup d'être souligné.
Raison.
Merci à vous. On reste ensemble. On parle ce matin du sida, du VIH, car on est loin d'être débarrassé de cette épidémie qui dure maintenant depuis plus de 40 ans. Où en est la recherche? Quelle est la situation ailleurs dans le monde? On vous répond dans quelques minutes sur Europe 1. Alors restez avec nous.